Dans une église, il y avait un pasteur qui était très apprécié par ses fidèles. Il prêchait avec éloquence. Il visitait ses membres. Il avait toujours une parole d'encouragement pour chacun. Et un jour, une femme de l'assemblée vient trouver son épouse en lui disant « Mais qu'est-ce que vous avez de la chance d'avoir un mari comme celui-ci ? Il est tellement doux, tellement à l'écoute, tellement sage. » Et elle fit une liste vraiment de qualificatifs de grande qualité. Et puis, l'épouse répond « Je ne connais pas l'homme que vous décrivez. » Le pasteur se comportait d'une certaine façon à l'église, mais il était tout autre à la maison, colérique. L'important n'est pas ce que nous semblons être dans l'église. L'important, c'est ce que nous sommes à la maison, en semaine, avec nos proches. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué, dans le chapitre 25, au verset 15. Alors, Josué a prononcé cette parole quand il a fait entrer le peuple élu en terre promise. Et vous savez que ce n'est pas Moïse qui a fait entrer son peuple en terre promise à cause d'une désobéissance. Le peuple a piétiné 40 années dans le désert. 40 ans dans le désert. Et au bout de ces 40 ans, Josué prend le relais et c'est lui qui fait entrer son peuple dans Canaan. Et il réunit son peuple, il réunit les anciens, les juges, les responsables, et il leur adresse la parole en disant « Vous avez vu comment Dieu vous a délivré de la main des Égyptiens. Vous avez vu comment il a ouvert la mer Rouge et qu'il a refermé sur l'armée des Égyptiens. Vous avez vu comment du ciel il vous a envoyé la manne pour vous nourrir dans le désert. Et pourtant, vous avez le cœur partagé. Votre cœur est partagé entre suivre Dieu et servir les idoles. » Et Josué, devant le cœur partagé du peuple, prononce cette parole, donc verset 15. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le peuple desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Devant ce cœur partagé, rempli d'idoles, il y a cette ferme résolution de la part de Josué. Il y a cette déclaration qui est ferme. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous avons tous, frères et sœurs, une terre promise. Dieu a un appel pour chacun. Et peut-être, s'il y en a qui en doutent encore, recevez-le ce matin de la part de Dieu. Dieu t'appelle. Dieu a prévu quelque chose de particulier pour ta vie. Il y a un appel pour chacun, mais il y en a, ça fait, il y a 10 ans, tu t'es posé la question, quel est mon appel ? Aujourd'hui, tu te poses la même question. Et dans 10 ans, tu continueras à te poser la question, quel est mon appel ? Et peut-être qu'à la fin de ta vie, tu regarderas derrière toi, avec tristesse, tu te diras, je suis passé à côté de mon appel. Et il y en a d'autres, vous avez entendu l'appel de Dieu, il y a 10 ans. Vous avez compris à quoi vous étiez appelé, mais vous êtes en préparation. Et dans 10 ans, tu seras encore en préparation, en formation. Et à la fin de ta vie, peut-être que tu te retrouveras formé, mais tu regarderas derrière toi et tu te diras, je suis passé à côté de mon appel. Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est que l'ennemi de nos âmes a placé sur notre route qui mène à notre terre promise, l'ennemi de nos âmes a placé des idoles. Des idoles qui nous empêchent d'entrer pleinement dans l'appel de Dieu. Et dans ce message, moi et ma maison, J'ai envie de vous donner des clés pour que vous puissiez prendre possession de votre terre promise et établir votre maison en lieu saint, loin des idoles. Alors le message, moi et ma maison, se déclinera en deux volets. Donc cette semaine, je vous parlerai de la structure de votre maison. Avant d'aborder la semaine prochaine ce que cela implique d'avoir une maison bien fondée et bien établie. Donc cette semaine, moi et ma maison, la semaine prochaine, nous servirons l'Éternel. Donc la première clé, bâtir sa maison sur un lieu saint. Première clé, bâtir sa maison sur un lieu saint. Où bâtis-tu ta maison ? Les Juifs ont bâti pour un temps leur maison en Égypte. Le pays par excellence où régnait l'idolâtrie, la méchanceté, le péché, toutes sortes de vices. Et c'est ce qui a conduit le peuple de Dieu à entrer en esclavage. Et Dieu avait prévu une séparation du pays d'Égypte pour que son peuple lui rende un culte mis à part. Il y a comme un déplacement physique du pays d'idole. Alors, Dieu peut permettre dans nos vies à ce que nous soyons déplacés physiquement loin des idoles, loin du pays des idoles. C'est ce qui s'est passé pour Lot. Vous savez, Lot a été enlevé, a été déplacé de Sodome avant que Dieu ne détruise la ville. Mais il faut reconnaître que la plupart du temps, Dieu nous appelle à rester dans le pays où il y a des tas d'idoles. La plupart du temps, nous devons faire cette séparation dans nos cœurs. Si nos maisons doivent rester dans un pays rempli d'idoles, nous devons chasser les idoles de ce pays, de nos maisons. Je redis, si nos maisons doivent rester dans un pays rempli d'idoles, eh bien, nous devons chasser les idoles de ce pays, de nos maisons. Tout autour de nous nous pousse à agir à l'opposé des valeurs de l'Évangile. Je prends un exemple, la convoitise. La convoitise est partout autour de nous. Je marche dans la rue, les panneaux publicitaires m'appellent à consommer telle ou telle chose. Je prépare un message sur Internet et puis des fenêtres intempestives s'ouvrent pour m'attirer à des choses qui sont malsaines. La convoitise est partout. Je ne peux rien faire, je ne peux pas les chasser. En revanche, je peux arracher de mon cœur la soif de posséder, la jalousie, les mauvais désirs. Où construis-tu ta maison ? Dans Matthieu 7, chapitre 7, au verset 14, vous savez, c'est l'histoire, la parabole de la maison qui est construite sur le roc ou sur le sable. Nous pouvons lire Matthieu 7, verset 24. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, c'est Jésus qui parle, et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Souvent dans la Bible, quand il est fait mention de la maison, c'est pour évoquer en fait notre être. Notre vie. Donc la maison, ça correspond à notre être. Le roc, c'est Jésus et sa parole. Et la tempête, eh bien, c'est l'épreuve qui arrive à un moment ou à un autre. C'est pourquoi, dit Jésus, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Jésus insiste bien ici sur le fait d'entendre la parole et de la mettre en pratique. Bien souvent, dans nos églises, on entend la parole, dimanche après dimanche. On entend et on entend. Mais combien sommes-nous réellement à appliquer la parole de Dieu. Autrement dit, Jésus nous dit, celui qui entend ma parole et qui la met en pratique dans sa vie, eh bien la tempête peut souffler, la maison restera fondée sur le roc. J'aime la version de Luc, Luc 6, 48, qui parle aussi de la parabole de la maison sur le roc. Il est dit, « L'homme prudent est semblable à un homme qui, bâtissant sa maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. » Il faut creuser profondément en nous pour y établir Dieu. Il faut entrer en nous-mêmes, creuser. Là, il est écrit deux fois le mot creuser, creuser. C'est pour vraiment dire qu'il faut entrer dans les profondeurs de notre être pour y installer Jésus. Deux maisons peuvent être semblables d'apparence. Mais lorsque survient une tempête, l'une restera établie et l'autre va s'effondrer. En réalité, il faut aller au sous-sol pour comprendre sur quoi repose la maison en profondeur. Est-ce que j'ai laissé la parole de Dieu entrer en profondeur? Où est ta maison? Sur le sable? Alors là, nous voyons une maison. Je décris un petit peu l'image pour ceux qui entendront le message sur Internet. Nous voyons une maison établie sur une dune et on voit que le premier étage s'est effondré suite aux dernières tempêtes du mois de mars. Maison à vendre. Y a-t-il un acquéreur? La maison fondée sur le sable, c'est la maison qui est fondée sur autre chose que Jésus. Alors le sable, ça peut être la sagesse humaine, ça peut être les philosophies. Le sable, c'est la confiance dans des biens matériels, dans l'argent, dans les placements. Et tout cela, eh bien, ça disparaîtra. C'est éphémère. Tout cela disparaîtra, balayé par la tempête. En revanche, la maison qui est construite sur le roc, donc ça, c'est pour ceux qui ont une mesure de foi particulière. La maison qui est bâtie sur le roc demeurera éternellement. Le roc de la parole de Dieu, Jésus. Jésus est souvent comparé dans la Bible au rocher. Si tu veux investir dans le développement durable, mise tout sur Jésus. Alors qu'on se comprenne bien, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas construire de belles maisons, que nous ne devons pas avoir d'entreprises et faire fructifier nos entreprises. Mais il y a une différence entre posséder des biens et être possédé par ces biens. Vous voyez, il y a une nuance. Alors si l'essentiel de ton énergie, tu le dépenses à gagner de l'argent pour avoir une belle maison, pour entretenir ta belle maison, pour remplir ta belle maison, eh bien, ta maison est construite sur le sable. Si tu consacres tout ton temps libre dans des passions futiles, dans des distractions, dans des plaisirs passagers, ta maison est construite sur le sable. Tout ceci sont des idoles. Alors, je vous cite quelques idoles. Des objets, des biens matériels peuvent être des idoles dans nos vies. Des personnes, une personne qui prend la place de Dieu est une idole. Un rêve qui ne vient pas de Dieu. Parfois, nous poursuivons des rêves qui ne viennent pas de Dieu. C'est une idole. Il y a aussi toutes ces pensées qui nous emprisonnent. Tout ceci, ce n'est que du sable. Le monde s'en ira avec toutes ses convoitises. Ce n'est qu'une question de temps. Et c'est important de comprendre où sont nos priorités. Parce que, comme dit la parole, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Ne fonde pas ta vie sur des grains de sable. Je cite quelques grains de sable. Pensez que la réussite professionnelle va m'apporter le bonheur. C'est un grain de sable. Pensez qu'une bonne situation matérielle et financière m'apportera la paix. C'est un grain de sable. La seule garantie de ce monde, c'est Jésus. Parce que quand tout aura disparu, balayé par la tempête, il ne restera que le roc, Jésus et sa parole. Donc première clé, bâtir sa maison sur un lieu saint, c'est-à-dire sur le roc qui est Jésus et sa parole. Deuxième clé, bâtir sa maison dans les bonnes dimensions. Et quand je parle des dimensions, je pense aux trois dimensions que représente notre être, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. C'est important de comprendre ça parce que souvent, il y a des choses qui nous empêchent d'entrer pleinement dans notre destinée et on n'arrive pas à repérer d'où vient le problème. Donc, je souhaiterais développer notre être en trois dimensions pour que vous puissiez repérer parfois d'où peuvent venir les blocages. Alors, nous sommes des êtres en trois dimensions. Pour cela, je vous renvoie à la lecture de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes des êtres en trois dimensions. La première dimension, donc, c'est le corps, c'est ce qu'il y a de plus visible. C'est l'enveloppe extérieure, ce qui nous permet de rentrer en contact avec notre environnement. Et en vous regardant ce matin, je pense que vous avez tous apporté un soin particulier à vos corps, n'est-ce pas ? Je pense certainement que déjà vous l'avez nourri, certainement que vous l'avez lavé, vous vous êtes changé, parce que je ne vois personne en pyjama. Donc vous avez tous apporté un certain soin, alors certaines personnes plus que d'autres, enfin en termes de temps je parle, mais connaître quelqu'un, connaître le physique de quelqu'un, l'apparence de quelqu'un, ça ne signifie pas qu'on connaît réellement la personne. Si par exemple, notre président de la République débarquait ce matin pour nous rendre une petite visite, eh bien, on serait tous, on le reconnaîtrait tous, n'est-ce pas ? Mais ça ne signifie pas que nous connaissons notre président. Parce que pour connaître quelqu'un, il faut connaître son âme, ou en tout cas en partie. Donc, la première enveloppe, le corps. La deuxième enveloppe, l'âme, contenue dans le corps. L'âme, c'est le siège de la pensée, des sentiments, des émotions, ce que les psychologues appellent la psyché. C'est aussi le siège des décisions. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc l'âme, c'est le lieu d'intimité. Et enfin, dernière dimension, l'esprit, notre esprit. L'esprit, c'est l'endroit le plus précieux de notre être. C'est l'espace, en fait, qu'a prévu Dieu pour avoir un lieu de connexion avec nous. C'est l'espace qu'il a prévu pour que nous puissions entrer en communion avec lui. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» 1 Corinthiens 3, 16. Vous êtes le temple de Dieu. Et Dieu a prévu de communiquer avec vous dans votre esprit. Il connecte son esprit avec votre esprit. Ça se passe dans notre esprit, dans le lieu saint. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une analogie entre notre être en trois dimensions et le temple de Jérusalem, tel qu'il a été construit par Salomon. Le temple de Jérusalem était aussi composé de trois parties. Alors, il y avait tout d'abord le parvis des gentils, ou ce qu'on appelait aussi le parvis des païens. C'était un endroit qui n'était pas spécialement réservé aux juifs. C'était un lieu de contact entre les juifs et les païens. Ce qui correspondrait à notre corps. Notre corps qui fait la liaison entre notre être intérieur et le monde extérieur. Le parvis des païens. Et ensuite, dans le temple, il y avait le parvis des juifs, un espace réservé spécialement aux juifs. Donc les juifs se retrouvaient en famille. Ça correspondrait donc à notre âme, ou ce lieu d'intimité. Et enfin, il y avait dans le temple le sanctuaire, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint était spécialement réservé pour les prêtres, et en revanche, le lieu très saint, réservé uniquement aux grands sacrificateurs, où une seule fois dans l'année, le grand prêtre pouvait entrer pour apporter à Dieu un sacrifice expiatoire. Le lieu saint, qui correspond à notre esprit, cet espace en nous que Dieu a prévu pour entrer en communion avec nous. Donc le lieu très saint, c'est notre esprit auquel il faut prendre le plus grand soin. Il faut chérir ce lieu saint. Si on apportait autant d'attention à notre esprit qu'on apporte à nos corps, mais on serait vraiment dans une autre dimension spirituelle. Combien de temps vous avez accordé ce matin à vos corps? Et combien de temps vous l'avez accordé à votre esprit, à vous préparer dans la prière, dans l'intercession, pour que ce moment que nous vivons soit vraiment une rencontre divine? Alors, l'âme, elle est à égale distance entre le corps et l'esprit. Et d'où un certain tiraillement, parce qu'en fait, les désirs du corps sont opposés aux désirs de l'esprit. Et l'âme, elle est tiraillée entre les deux. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'âme, c'est le siège des décisions. C'est-à-dire que c'est l'âme qui va décider d'accomplir davantage les désirs de la chair ou les désirs de l'esprit. Je vous donne un exemple. Nous sommes réveillés à 3 heures au milieu de la nuit, à 3 heures, et on sent dans notre être que Dieu nous appelle à passer du temps avec lui, dans l'intercession, comme si Dieu avait quelque chose à nous dire. Alors, d'un côté, il y a le corps qui nous rappelle qu'on est fatigué, qu'on a une dure journée le lendemain et qu'il n'est pas question de couper la nuit comme cela. Le corps nous rappelle à notre sommeil. En revanche, l'esprit nous presse à nous lever, à nous tenir à genoux devant la face de Dieu. C'est l'âme qui va prendre la décision. La chair, son objectif, c'est uniquement d'accomplir, que nous accomplissions nos pulsions. En revanche, l'esprit, son objectif, c'est de nous conduire davantage dans la présence de Dieu et que nous soyons davantage en communion avec notre Créateur. À l'origine, Dieu et l'homme étaient en communion parfaite. Vous savez que Adam pouvait circuler librement dans le jardin d'Éden et il communiquait avec Dieu. Mais à cause de sa désobéissance, il y a eu cette séparation. À cause de son péché, il y a eu cette séparation. Parce que Dieu ne pouvait pas continuer à s'unir à quelque chose qui n'est pas saint. Donc une séparation entre Dieu et l'homme est venue à cause de la désobéissance. Et nous-mêmes, à notre origine, on était en parfaite communion avec Dieu. Jérémie, chapitre 1, verset 5, dit ceci: « Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Je te connaissais. Le terme « connaissais » en hébreu, c'est le terme « yada », le même terme qui est utilisé pour décrire les relations d'un homme avec sa femme. Donc, quelque chose de fusionnel. Dieu nous connaissait. Et avant que tu fusses sorti du sein de son sein, je t'avais consacré. Donc, l'enfant, quand il vient au monde, il est connecté à Dieu. Et plus il grandit, et plus il va s'éloigner de son Créateur. Aidé, bien sûr, par la société, par l'éducation, par l'esprit de ce monde qui va tout faire pour séparer l'homme de son Créateur. Pascal disait, il y a dans le cœur de chaque homme, un vide qui a la forme de Dieu. Donc, plus on se sépare de Dieu, et plus nous sommes déformés. Et comme il y a ce vide qui doit être comblé que par Dieu, eh bien, l'homme va essayer de compenser de différentes façons. Voilà ce qui arrive quand l'homme essaye de compenser le vide dans son corps. Ça, ce sont les personnes qui investissent leur corps en s'adonnant à toutes sortes de plaisirs charnels. C'est le culte du corps. Vous savez, toutes ces personnes qui... Bon, on peut aller une fois ou deux en salle de musculation, mais quand on part tous les jours en salle de musculation pendant 3 heures et qu'on n'en a jamais assez, notre corps n'est jamais assez musclé, eh bien, c'est que quelque part, on a une dépendance, on a une addiction. Donc le corps est obèse, l'âme est complètement ratatinée, puis l'esprit est presque inexistant. Ça, ce sont les personnes qui investissent leur âme. Cette fois-ci, c'est l'âme qui est obèse. Ce sont toutes des personnes, vous savez, qui sont prises dans des mélodrames, qui n'écoutent que leurs émotions, leurs sentiments, que leurs ressentis. Le corps est complètement retranché, repoussé dans ses retranchements, l'esprit presque inexistant. C'est le type de structure des personnes atteintes qui souffrent d'anorexie. Leur âme a complètement déformé leur corps. Et voici ce qui arrive quand c'est l'esprit qui est obèse. Vous savez, c'est les personnes qui passent leur temps à méditer. Les méditations, toutes sortes de méditations orientales ou philosophiques. C'est très en vogue en ce moment. La pleine conscience, vous savez, tout ce genre de choses qui nous arrivent d'Orient. Alors, ce sont des personnes très connectées, très spirituelles, mais connectées à quoi ? Ça, c'est la question. Les trois structures que nous venons de voir, aucune d'elles n'est à la bonne dimension. Elles sont toutes déformées. L'équilibre est retrouvé quand le Saint-Esprit reprend toute sa place dans nos vies. Et au moment de la conversion, donc on se repositionne, on repositionne notre corps, notre âme et notre esprit. On reconnecte notre esprit à l'esprit de Dieu. Et Luther disait, quand on se tourne vers Dieu, on ne trouve pas Dieu, on le retrouve. Donc la conversion, c'est ce moment où notre esprit est reconnecté à l'esprit de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire que tout est réglé. Mais tout devient possible parce qu'on a l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est important de comprendre ça parce que beaucoup de nos problèmes, en fait, sont à résoudre dans notre esprit. Mais bien souvent, on se débat dans notre chair ou on se débat dans notre âme en allant de thérapie en thérapie, alors que le problème est à régler dans la présence de Dieu. Alors, quand notre maison est bien bâtie sur le lieu saint, sur Jésus, quand ensuite nous avons redonné les bonnes dimensions à notre maison, et quand on a remis le Saint-Esprit à sa place, eh bien, nous pouvons laisser l'Esprit de Dieu agir en nous et éclairer toutes les pièces de notre maison. C'est la troisième clé. Éclairer toutes les pièces de sa maison. Bien sûr, c'est Jésus qui va éclairer les pièces de notre maison. Si Dieu habite en nous, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il est à l'aise dans toutes les pièces de notre maison ? Et si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de faire un petit ménage de printemps. Bon, on est en été, mais ça marche aussi. Personnellement, quand je reçois des invités, je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien bien ranger la maison, bien faire le nettoyage pour que les invités se sentent à l'aise. Quand on a invité Dieu à habiter dans notre maison, on a fait le ménage. Mais parfois, on a fait le plus gros. Et il peut arriver qu'il y ait quelques recoins de notre être qui soient encore dans l'obscurité. Imaginez que là, derrière moi, étaient projetées toutes vos pensées depuis que vous êtes entré en ce lieu, ou tous vos actes secrets. Je pense qu'on serait nombreux à rougir. Aucune pièce n'est cachée devant Dieu. Aucune pièce secrète de notre être n'est réellement cachée devant Dieu. Et parfois, nous, on se comporte comme Adam. Vous savez, Adam, après sa désobéissance, il s'est caché. Il a essayé de cacher sa nudité. Mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. On peut se cacher devant les hommes. On peut faire bonne figure, on peut avoir des faux semblants, mais on peut pas se cacher devant Dieu. Alors, je vous propose une petite visite guidée de la maison et des différentes pièces. Alors, si votre maison n'est pas semblable au plan de ma maison que je vous propose, eh bien, vous pourrez certainement trouver une correspondance avec la vôtre. Hein. Donc, commençons par le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, le salon tout d'abord. Le salon, c'est le lieu de socialisation de la famille, des amis. Dieu est-il à l'aise dans ton salon ? Dieu est-il à l'aise avec tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, tout ce qui se vit ? Dieu est-il à l'aise avec ce que vous regardez dans votre salon, à la télévision ? Qui fréquentes-tu ? Qui invites-tu dans ton salon ? Qui sont tes amis ? Quelles sont tes discussions avec tes amis ? Est-ce que vos paroles, quand vous partagez avec les amis, est-ce que vos paroles sont empreintes de grâce et de paroles d'encouragement ou est-ce que ce ne sont que des propos stériles, voire dégradants ? Est-ce que Dieu est à l'aise dans tes discussions ? 2 Timothée 2, 23 dit ceci, « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître les querelles. » Et là, je pense à toutes ces discussions très spirituelles, vous savez, qu'on peut avoir avec nos amis sur des points de doctrine, sur la théologie. Et on s'enflamme pour des choses parce qu'on est convaincu d'avoir raison. Bon, souvent, on a raison. Hein. Mais qu'est-ce qu'il en reste au final après des heures et des heures de discussion ? Qu'est-ce qui reste de tout ça ? Est-ce qu'on a réellement été encouragé dans la parole de Dieu ? Un autre passage... Éphésiens 5, verset 4, dit ceci, « Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. » Alors j'étais un peu gêné par ce verset parce que moi j'aime beaucoup plaisanter. Et là il nous est dit qu'on n'entende ni propos insensés, ni plaisanteries. Alors j'ai regardé le terme en grec, « plaisanterie ». Et en réalité, c'est le terme eutrapelia, qui signifie sens mauvais de la plaisanterie, grossièreté, obscénité. Ça m'a rassuré. Nous pouvons plaisanter, mais avoir des saines plaisanteries. Par contre, il est vrai que parfois, notre humour, nos plaisanteries frôlent la grossièreté. Il faut reconnaître que parfois, quand on est entre amis, on plaisante, on rigole, mais faisons attention que ce ne soit pas au détriment de quelqu'un. Est-ce que nos plaisanteries font rire Dieu ? Est-ce qu'il prend plaisir à nos plaisanteries ? Ou est-ce que nous attristons le Saint-Esprit parce que ce sont des plaisanteries équivoques ? Je crois sincèrement que l'amitié doit nous rendre meilleurs. Et il est parfois nécessaire de quitter les faux amis quand ces amis-là nous tirent vers le bas et nous éloignent de la présence de Dieu. Sanctifions notre salon, frères et sœurs. Et puisque la cuisine est juste à côté, je vous propose une petite visite. Ouvrons les placards. Est-ce que ton alimentation est saine ? Qu'as-tu dans tes placards ? Ou est-ce qu'on trouve des produits, des aliments qui sont, quand ils sont consommés par excès, sont néfastes à notre corps. Oui, Dieu se soucie du manger et du boire. Tout est permis, dit la parole, mais tout n'est pas utile. Et je pense à toutes ces choses que nous consommons par excès qui sont nuisibles, à commencer par l'alcool. L'alcool, quand elle est consommée par excès, est nuisible. Je pense aussi à tous ces produits gras ou trop sucrés dont on se gave à outrance. Bon, ça, c'est un avis personnel, mais la viande, quelqu'un qui consomme de la viande tous les jours, mi-matin, midi-soir, et qui ne peut pas s'empêcher d'en consommer, je pense que cette personne a un problème d'addiction. Moi, personnellement, je me méfie du café. J'avais tendance à boire un peu trop de café. J'aimais ça. Et j'ai dû... je sais que le café, ce n'est pas mauvais, mais quand c'est consommé en grande quantité, c'est mauvais pour notre cœur, pour notre système nerveux. Donc, j'ai dû faire un jeûne de café pendant un mois pour m'assurer qu'il n'y avait aucune dépendance. Si vous avez un doute avec un aliment, bah, faites un jeûne de quelques semaines et vous allez voir ce qu'il en est. Que Dieu nous éclaire sur ce que nous consommons. Avant de monter à l'étage, je vous propose une petite visite de la cave. La cave, qu'est-ce qu'on en stocke des choses dans la cave ? Alors, si vous n'avez pas de cave, vous prenez votre garage ou une pièce dans la maison, vous stockez toutes sortes de choses, c'est pareil. En fait, la cave, c'est l'endroit le moins éclairé de la maison, mais c'est aussi l'endroit le plus rempli. On stocke tout et n'importe quoi. Alors, on garde tout ce qui ne sert plus, mais dont on pourrait se servir un jour. On stocke ce qui est cassé, dans l'espoir de le réparer un jour. On stocke aussi tous nos cartons, les cartons qu'on traîne de déménagement en déménagement. On ne sait même plus ce qu'il y a dedans, mais on les traîne. On est content, on a des cartons, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On stocke aussi les souvenirs du passé. Et il est temps de faire un tri. Il y a dans nos vies des cartons de mauvais souvenirs que l'on traîne, parfois depuis l'enfance, et qui nous pourrissent. Il y a ces cartons d'abus, ces cartons de mélancolie, ces cartons de souffrance que l'on traîne depuis bien trop longtemps et que Dieu nous demande d'abandonner, de jeter. Il y a dans nos cœurs toutes sortes de pensées, des pensées de mort, des mauvais souvenirs, des traumatismes, des obsessions, parfois des obsessions sexuelles. Et tout ceci nous rend prisonniers. Mais Dieu veut nous en libérer. Dieu veut que nous laissions ces cartons qu'on traîne depuis trop longtemps pour nous rendre libres. Et parfois, quand ça ne va pas, tu vas à la cave, là où personne ne te voit. Et tu rumines des choses du passé, tu rumines tout ça, ces pensées de mort, ces obsessions, où tu pratiques des choses en secret. Mais Dieu te voit et Dieu veut t'en délivrer ce matin. On va prier tout à l'heure, on va prier pour que Dieu fasse la lumière dans la cave de ton cœur. Mais prenons un peu d'auteur et allons à l'étage. L'étage, c'est ce lieu d'intimité. Alors, à l'étage, bon, dans le plan de ma maison, il y a la salle de bain et la chambre. Mais si vous avez une maison plein pied, ça marche aussi. Hein. La salle de bain, la chambre, ce sont des lieux d'intimité. Alors, on se promène rarement tout nu dans la cuisine ou dans le salon, sauf accident. Mais par contre, il n'est pas rare de se retrouver nu dans notre salle de bain ou dans notre chambre, c'est tout à fait normal. Je parle de nudité physique, mais surtout spirituelle. Je parle de cette nudité quand on se retrouve face à Dieu, sans artifice, sans faux semblant. Qu'est-ce que tu penses de toi quand tu te retrouves nu devant ton miroir ? Est-ce que tu peux dire « Je te remercie Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse » ? Beaucoup de personnes souffrent de leur image. Et pourtant, la relation qu'on a avec notre image en dit long sur la relation qu'on a avec Dieu. Parce que Dieu, quand on a fait de Dieu son tout, on est réconcilié avec lui et avec nous-mêmes, avec notre image. Et Dieu nous rétablit dans notre identité de fils et de fille de Dieu. Donc plus complexe, plus on est intime avec Dieu et plus il nous apprend à nous aimer. Certains ont encore du travail, n'est-ce pas ? Et comme je suis sur le thème de la nudité, je vais aller plus loin, je vais parler de la sexualité. Qui amènes-tu dans ta chambre à coucher ? As-tu remis ta sexualité à Dieu ? Pour les couples, est-ce que votre sexualité est sanctifiée? Je rappelle que la seule sexualité qui plaise à Dieu, c'est entre un homme et une femme unis par les liens du mariage. Alors je sais que ce n'est pas la mode de dire ça, parce qu'on est dans une société où il est de bon ton de se mettre en couple, de s'essayer, de vivre ensemble, et puis pourquoi pas, au bout de quelques années, si tout marche bien, on peut éventuellement envisager le mariage. Ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas la mentalité de Dieu. Et pour les célibataires, est-ce qu'il y a une dépendance que Dieu voudrait que tu abandonnes? Est-ce que tu salis ton lieu secret par des choses obscènes? Je finis par la chambre à coucher, parce que c'est sans doute la pièce dans la maison où on y passe le plus de temps. Certains vont passer un tiers de temps à dormir, d'autres un peu plus. Ça dépend des besoins de chacun. Certains vont rester plus de temps à prier dans la chambre. Alors quand je parle de la chambre, c'est au sens le lieu secret où on aime se retrouver pour entrer dans la présence de Dieu. Vous voyez ce que dit Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, qui t'attend dans le lieu secret. Donc la chambre, c'est le lieu où on s'abandonne, dans tous les sens du terme. On s'abandonne physiquement dans le sommeil et on s'abandonne dans les bras de Dieu. Donc la chambre, c'est un lieu de repos, le repos de notre corps et aussi le repos de notre âme. Savez-vous que même la nuit, nous pouvons recevoir des révélations et des visions de la part de Dieu? Alors peut-être ceux qui ont des nuits agitées par des rêves qui ne sont pas de Dieu, des rêves, des cauchemars diaboliques, on peut aussi prier pour que votre chambre, votre sommeil soit aussi un lieu de paix et un lieu de révélation de la parole du Seigneur. Alors je vais m'arrêter là. Dieu veut restaurer ta maison. Dieu veut éclairer toutes les parties de ton être. Alors peut-être que tu as été interpellé ce matin par quelque chose que Dieu a mis en lumière. Bien, peut-être que c'est le moment de ta délivrance. C'est peut-être le moment que Dieu a prévu pour que ce qu'il a mis en lumière ce matin, tu puisses l'abandonner à la croix. Donc j'appelle les musiciens, vont prendre un chant, et puis ceux qui veulent restaurer la maison, restaurer leur maison, eh bien s'avancent, on va prier.